Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
À l'Art nouveau, dont nous avions parlé il y a quelque temps avec Geneviève Furnemont, succède dans les années 1920 l'Art déco, qui semble vouloir s'opposer à l'Art nouveau, ou du moins s'en distinguer. L'ouvrage Toulouse Art déco fait justement suite à cet ouvrage Toulouse Art nouveau, grâce à qui Geneviève Furnemont, une fois encore, nous fait découvrir les trésors que recèle la ville de Toulouse. Une fois encore, ce livre nous offre un choix de très belles photos, de très belles couleurs et des commentaires de l'auteur fort intéressants et fort instructifs. Geneviève Furnemont, bonjour.
Bonjour, Monique Rocher.
Alors, nous allons faire un peu d'histoire. Il y a eu la guerre, puisque la dernière fois, nous vous aviez parlé de l'Art nouveau, qui se terminait vers 1920.
Oui.
Bon, qu'est-ce qui s'est passé après 1920 pour Toulouse ?
Alors, après 1920, pour Toulouse, il y a la nécessité, comme dans toutes les villes de France, de reconstruire, d'avoir un nouvel élan. Et tous les gens qui sortent de la guerre ont effectivement conscience qu'ils ont échappé au plus terrible. Et peut-être qu'ils ont aussi conscience que ça ne durera pas. Et il y a un vrai élan vital. Vous avez une espèce de sève hein, qui irrigue vraiment toute la période, que ce soit à Toulouse ou ailleurs. Et ensuite, à Toulouse, ça va se greffer sur deux événements historiques. Le fait que Pierre Latécoère pose les statues de la SEMA, il n'a pas perdu une minute. Hein. Il y est allé le 11 novembre 1918. Et du coup, l'économie de Toulouse va reprendre. Donc ça, c'est très important quand on veut faire des constructions et que les gens vivent mieux. Et ensuite, il y a un autre événement, ce sont les dissensions politiques hein, au sein même de la mairie qui, en 1925, vont aboutir à l'élection surprise d'Étienne Billière.
Voilà, et on comprend bien à vous lire que vous admirez Étienne Billière.
Ah oui, beaucoup.
Voilà, ça
beaucoup.
A été un grand maire.
Oui, mais je crois que n'importe qui, quelles que soient vos convictions politiques, n'importe
qui... reconnaît qu'il a fait un très bon travail.
Admire Étienne Billière parce que c'est un homme déjà qui s'est fait tout seul. Il est né dans le quartier Saint-Cyprien en 1876, c'est-à-dire un quartier qui venait d'être complètement ravagé par l'inondation. Il naît dans une famille pauvre et il va se donner véritablement les ambitions de son rêve. Et on voit souvent des hommes qui, une fois qu'ils sont à la tête du pouvoir, oublient les serments qu'ils se sont faits. Et Étienne Billière n'a rien oublié. Il a mis vraiment un certain nombre de politiques sociales, humaines, architecturales, qui pour moi sont fabuleuses et qui sont une des plus belles périodes de l'histoire de la ville.
Et vous utilisez deux adjectifs qui me plaisent beaucoup, avisé et utopique.
Oui, oui, oui. Je crois que c'est important. C'est un homme qui a réfléchi à son projet et qui arrive, en fait, qui arrive, même si, a priori, quand on regarde sur le papier, on se dit, mon Dieu, comment est-ce qu'on peut arriver à faire tout ça en si peu de temps, parce qu'il est mort brutalement 10 ans plus tard. On doit saluer, hein, véritablement, à la fois l'énergie, le message et la concrétisation de ce rêve.
Il est resté 10 ans, quand même, maire de Toulouse.
Oui, il est resté 10 ans.
Alors... Ouais. Il a fait apparemment beaucoup, il a contribué à la construction de beaucoup de bâtiments, de maisons à visée, je dirais, sociale.
Oui, alors ça, son premier geste, c'est de mieux loger les gens. Donc on va avoir les premiers HBM, les habitations bon marché, et notamment ceux du Ferretra qui sont faits tout de suite en 1926. Hein, donc il n'est pas là depuis très très longtemps. Donc il veut mieux loger les gens et il veut les aider. Donc il va aussi créer tous les groupes scolaires que nous avons dans les quartiers limitrophes, parce qu'il n'y a des écoles que dans le centre-ville. Et on s'aperçoit très bien que les parents qui travaillent dans les quartiers périphériques, que ce soit le Busca ou Rangueil, ils ne vont pas amener votre enfant au centre-ville pour être scolarisé. Et il y a 100 ans, un enfant qui n'est pas scolarisé, c'est un enfant qui va travailler.
Bien sûr. Tout.
Donc, il va créer des écoles partout, à portée de marche de n'importe quel individu. Et les enfants vont pouvoir être scolarisés. Et nous le savons tous, la connaissance, c'est le début de la liberté.
Bien sûr, bien sûr. Voilà, et puis il y a des chantiers urgents.
Ah, il y a des chantiers urgents parce que la ville est en très mauvais état.
Mais oui.
Donc, il faut absolument paver les rues, il faut mettre de l'éclairage, il va créer, ce n'est peut-être pas spectaculaire d'un point de vue esthétique, mais il va créer des usines de traitement des eaux sur l'île du Ramier. Mmh. Il va essayer aussi d'améliorer le fait que tout le monde ait l'eau courante. Et il va enclencher un certain nombre de choses pour avoir une meilleure hygiène. Il est persuadé qu'avec une meilleure hygiène, on vit plus longtemps, il n'a pas
ce
tort.
Ce qui n'est pas faux.
Il n'a pas tort.
Oui.
Et il va surtout décider aussi la construction d'infrastructures sportives. Et notre belle piscine Alfred Nakache en est un magistral témoin.
Vous parlez de la loi Cornudet. Qu'est-ce que c'est que cette loi ?
Alors la loi Cornudet, c'est une loi qui va être publiée après la guerre et qui oblige toutes les villes de plus de 10 000 habitants de faire un plan d'urbanisation. C'est-à-dire de revoir complètement la politique de la ville, parce que jusque-là...
C'était anarchique totalement.
Oui, dans beaucoup de centres-villes, c'était anarchique. Vous pouvez regarder n'importe quel plan de ville. En général, le centre historique, ce sont des petites rues qui partent dans tous les sens, sauf dans les villes qui sont d'histoire romaine. Et là, il faut absolument commencer à créer... C'est la suite, en fait, d'Haussmann. Haussmann va créer des grandes avenues, bien droites, bien pures, mais un peu n'importe comment. La loi Cornudet va imposer à des villes de moins grande importance d'avoir une sorte d'urbanisme concerté pour faciliter la circulation et pour notamment, si c'est possible, faciliter la circulation des produits industriels que l'on peut fabriquer.
D'accord.
Et que tout le monde puisse vivre une économie un peu plus sereine dans ses déplacements. Et il se trouve qu'à Toulouse, le plan d'urbanisme ne sera pas appliqué à ce moment-là et qu'il sera appliqué bien plus tard et bien trop tard.
Mmh. Alors, venons-en à l'art nouveau, donc ce qu'on a appelé plutôt l'art déco, qui court sur quelle période ?
Alors, en théorie, si on prend la théorie de l'histoire de l'art, l'art déco commence en 1925. En 1925, vous avez l'exposition internationale des arts décoratifs, industriels et modernes, ça dit bien ce que ça veut dire, à Paris, et qui est une véritable révolution. Et l'art déco se termine avec la Première Guerre mondiale, comme l'art nouveau, avec la Seconde Guerre mondiale, pardon, comme la Première Guerre mondiale avait achevé l'art nouveau.
Oui c'est fait, étonnant, finalement.
Oui, on a chaque fois le conflit qui bloque la suite de l'émergence d'un style.
Oui, alors justement, le style précédent, c'était plutôt fleuri, en courbe, assez sensuel, dans le fond, je dirais.
Oui.
Peut-être un peu chargé, à mon goût. Je préfère, moi, en ce qui me concerne, l'art déco, mais ai-je le droit de le dire ? Non. Alors, l'art déco, donc, de 1920 à 1940, en fait, c'était peut-être plus facile de construire parce que sur des villes qui ont été certaines totalement détruites.
Ah oui, vous avez des villes, par exemple, comme Charleville-Mézières, qui ont un magnifique patrimoine art déco, et eux, ils avaient malheureusement table rase. Hein. Malheureusement pour eux, peut-être heureusement pour l'art déco. Nous, on n'a pas véritablement de destruction, mais on est très en retard à Toulouse à ce moment-là. Et donc, il y a vraiment la possibilité de faire des grands projets au centre-ville, la bibliothèque municipale en est un bel exemple. Et le grand programme des HBM du Grand Rond, parce que quand on dit à certains Toulousains que les HBM du Grand Rond, c'est des logements sociaux,
ils
regardent avec des yeux écarquillés en se disant, mais cette personne...
Parce que c'est dans un quartier très...
Oui, c'est dans un quartier très chic.
Oui.
Et donc, c'était aussi un très joli geste. D'ailleurs, quand on regarde ces immeubles, du côté du Grand Rond, ils ont 3 étages pour ne pas blesser
l'esthétique
du quartier du Grand Rond.
Du côté du
Port-Saint-Sauveur, ils ont 7 ou 8 étages puisque le quartier du Port-Saint-Sauveur était plus populaire. Donc, il y a une vraie aussi concertation, adaptation aux bâtis existants et aux mentalités des différents quartiers et qu'on a un peu perdu de vue aussi parfois. À l'heure actuelle.
Alors, moi, je trouve un peu compliqué en matière d'architecture, parfois, de distinguer l'art déco de l'art nouveau.
Alors, c'est assez simple pour moi. On va essayer de le simplifier
pour
les gens qui nous écoutent. Alors, vous avez dit, effectivement, l'art nouveau, ce sont des courbes, des contre-coupes, de l'asymétrie, l'apostrophe, beaucoup de références végétales aussi, des teintes qui sont en général des tons pastels. Et l'art déco, ce sont essentiellement des lignes droites, de la géométrie, une décoration qui est plus épurée. Et le seul point commun qu'on peut avoir entre l'un et l'autre, c'est que l'art déco est beaucoup associé au développement des grands paquebots. Et un style qu'on appelle le style paquebot ou le style streamline en anglais. Et donc l'art déco va garder uniquement dans les courbes des motifs de vagues ou de spirales qui évoquent la mer, mais qui sont en général très symétriques. Vous n'avez pas d'asymétrie dans l'art déco.
C'est beaucoup plus sobre et léger, on dirait, non ?
Alors je ne sais pas si c'est léger parce que vous pouvez avoir beaucoup de décors, mais effectivement, ça paraît plus sobre parce que c'est plus géométrique, mais tout cela est aussi affaire de goût. En France, on est, surtout dans le sud de la France, on est assez peu sensibilisé à l'art nouveau. Et donc, comme vous le disiez, les choses qui sont un peu chargées, certaines personnes ont un petit peu de mal à les visualiser, à les intégrer. Oui. Vous discutez de ça avec un habitant de Barcelone, il ne va pas du tout vous dire la même chose. Ça fait partie de leur vécu.
Alors oui, alors moi, j'avais pensé que justement, à la fin de la guerre, surtout la Grande Guerre 14-18, on avait envie de s'amuser de fantaisie.
En fait... Ah, mais vous avez aussi beaucoup de fantaisie dans l'art déco. Il va y avoir énormément de décors de mosaïques, par exemple. Ils vont beaucoup travailler sur les décors peints. Et tout ça est lié aussi à cette joie de vivre. On a un personnage très célèbre qui est associé à tout ça, c'est Joséphine Baker. Ou bien dans les peintres, on a Tamara de Lempicka, on a un petit début de,
avec
un
des
petit
couleurs
début
vives,
de liberté.
Oui, bien sûr. Oui, oui.
Alors,
plus épuré, plus géométrique. Alors, j'ai remarqué que quand on regarde votre ouvrage, où il y a de très belles photos, on voit qu'il y a souvent des balcons et souvent, ce que j'ai toujours aimé, des bow windows.
Oui. Alors, le bow window, c'est la particularité, effectivement, de l'art déco. Le bow window va permettre d'agrandir les pièces sans agrandir la surface au sol, puisque c'est une avancée à trois pans, pour ceux qui nous écoutent. Donc, c'est une avancée à trois pans qui est en général dans les pièces principales d'habitation. Et du coup, cette avancée à trois pans permet de donner plus de lumière et elle permet, dans la partie supérieure, de créer un balcon pour les étages qui sont juste au-dessus. Et dans les idées de l'art déco d'Étienne Billière, de l'architecte Léon Jossely, il y a aussi la certitude que l'architecture peut apporter de la lumière. Et c'est la première fois où on dit vraiment que l'homme a besoin de lumière pour vivre. Oui.
Oui, alors avec souvent des balcons, on a parlé des bow windows. Ce qu'il y a, c'est que beaucoup de ferronnerie. Le régionalisme a joué un rôle important dans cette partie-là de l'architecture, dans ce domaine ?
Alors, vous avez dans chaque style, que ce soit l'art nouveau ou l'art déco, on en avait parlé, je crois, la fois dernière aussi, vous avez dans chaque style une petite veine régionaliste. Alors, la petite veine régionaliste de l'art déco, elle va être liée, et on est toujours dans cette idée de meilleure vie, elle va être liée au développement du balnéaire. Donc, les gens vont avoir plus la possibilité d'aller au bord de la mer. Et ils vont, de notre côté, souvent à l'océan. À l'océan, vous avez de magnifiques villas basques. Mmh. Et à Toulouse, le côté régionaliste va singer les villas basques. Parce que les villas basques sont faites avec des pans de bois. Et alors nous, quand on voit une maison à Toulouse avec des pans de bois, en fait, ce sont des maisons en béton sur lesquelles on a mis un faux pan de bois pour imiter les villas basquaises. Et c'est ça l'aspect régionaliste de l'art déco dans notre... dans la région de Toulouse, oui.
Vous dites à un moment donné qu'il y a un manque d'ouverture, manque d'ambition par rapport à la... je parle là de l'exposition en 1937. Les Espagnols avaient envoyé la magnifique fresque, je dirais, mm-hmm. c'est pas une fresque d'ailleurs, de Picasso, Guernica. Mm-hmm. Et nous, qu'est-ce qu'on en voit ?
Alors, on en voit quand même pas mal de choses, parce que quand on parle de l'exposition de 1937, souvent on ne parle que du pavillon de l'Espagne, parce qu'il y avait Picasso, il y avait Calder, il y avait Miro. Donc ce sont des artistes puissants et oui. C'est resté dans l'imaginaire collectif. Mais à ce moment-là, vous avez des artistes, vous avez Charlotte Perriand, qui fait tout un stand qui va être lié au monde du travail et aussi à une meilleure vie dans ce qu'on appellera plus tard les banlieues. Vous avez Sonia, Charlotte Perriand, elle est architecte et designer.
D'accord.
Et vous avez aussi Sonia et Robert Delaunay qui vont être choisis par Léon Blum pour faire le pavillon des chemins de fer. Et donc, ils vont travailler. Léon Blum va leur demander de faire de grandes fresques et de travailler avec 50 artistes chômeurs.
Avec leurs couleurs vives.
Avec leurs couleurs vives, oui. Oui, tout à fait. Donc, on a effectivement beaucoup d'artistes français qui vont participer à l'exposition de 1937, qui est un peu le champ du cygne de tout cela. Et tout cela a été oblitéré par la puissance créatrice et l'horreur de la guerre civile en Espagne. Oui,
oui, oui. Oui. Alors, de beaux immeubles, évidemment, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y a, vous direz qu'il n'y en a pas assez, mais quand même. Alors, près du marché Victor Hugo, il y a de très beaux immeubles. Il y a l'hôtel central des postes. Mmh. Effectivement, on ne le regarde pas assez.
Non, finalement. Non, non. Alors, j'ai remarqué souvent.
Il n'y a pas de recul.
Les personnes qui se promènent un peu dans Toulouse remarquent assez facilement les immeubles paquebots de Victor Hugo que vous venez de citer. Certains remarquent la façade de la Dépêche parce qu'elle est au milieu de la rue Alsace-Lorraine.
Et puis il y a un motif quand
même
impressionnant.
Oui, et puis il y a les motifs de mosaïque. Oui. Oui. Mais c'est vrai que la poste, quand je promène les gens dans les visites guidées et que je m'arrête devant la poste, je leur dis voilà, c'est un bâtiment que personne ne regarde. Et ils se rendent compte. Ouais. Premièrement, qu'il ne le regarde pas. Et deuxièmement, que ce bâtiment est très intéressant. Ouais. Il y a un magnifique travail sur la brique et sur les ressauts de la brique qui jouent avec le soleil. En architecture, on appelle ça le calepinage. Et c'est un bâtiment qui change d'aspect tout au long de la journée grâce justement à ces reliefs qui jouent dans le soleil.
Et alors, est-ce que ces bâtiments... Je pensais à la Bourse du Travail également, place Saint-Sernin. Est-ce que ces bâtiments sont classés?
Non. Non, il y a très peu de choses du XXe siècle qui sont classées à Toulouse. Ils sont protégés, en fait, par l'existence du secteur sauvegardé, qui correspond sensiblement au centre-ville. Donc, ce sont des bâtiments dont les façades sont protégées, mais pas nécessairement les intérieurs.
Oui.
Et donc, on a en étant reçu, parfois, par des propriétaires de maisons individuelles, on a constaté effectivement que certaines personnes prennent des libertés avec le patrimoine pour améliorer leur quotidien.
Oui.
Oui, tout à fait.
Alors, on n'a pas parlé non plus de ce très beau bâtiment, sa bibliothèque municipale, qui est devenue la bibliothèque du patrimoine, rue du Périgord.
Oui. Ouais. Alors ça, c'est un grand geste aussi de la municipalité d'Étienne Billière. Comme je vous le disais, c'est l'idée que tout le monde pourrait avoir accès au savoir. Alors, nous sommes habitués, nous, à avoir chacun chez nous notre bibliothèque. Et on ne se rend pas compte de ce geste inestimable de donner le savoir à chacun. Alors c'est l'idée que l'on puisse lire, mais c'est l'idée aussi que si on n'a pas eu la chance de faire des études, on puisse venir le soir pour faire éventuellement des travaux pour entamer une formation professionnelle, pour avoir une meilleure vie. Et il y a quelque chose de très émouvant pour moi, en tant que femme et en tant que mère, c'est à l'intérieur de la bibliothèque, avant de rentrer dans la salle de lecture, vous avez un grand vitrail avec une femme qui apprend à lire à un enfant. Et cet enfant, c'est une petite fille. Et donc ça, c'est un très, très beau geste parce qu'on est en 1930-35 et que l'éducation des petites filles est mise en avant. Et ça, c'est aussi assez émouvant.
Alors, évidemment, il y a beaucoup d'autres immeubles. Et on voit, il y a dans le quartier... de la rue avenue Camille Pujol, qui était une avenue relativement modeste.
À tout ce que vous avez au-delà du cercle des boulevards et du canal
Absolument.
Du Midi, ce sont des quartiers qui restent assez pauvres à ce moment-là. Et dans l'avenue Camille Pujol, il y a plusieurs gestes architecturaux, il y a des immeubles, il y a des maisons, il y a le petit kiosque de la place Pinel. On va construire beaucoup de choses à ce moment-là qui sont très spectaculaires.
Alors, la côte pavée aussi, bien sûr. Vous parlez de la soufflerie de Banlève, on en a parlé. Et alors, les cités jardins, il y en a dans pas mal de quartiers. Il y en a du côté de... comment dirais-je ?
À Croix-Dorade, peut-être ?
En haut de la côte pavée.
Oui, Oui. Alors, vous avez des cités-jardins un petit peu partout.
Il y en a un peu partout, oui.
Dans la ville. Ce que je trouve, moi, personnellement, assez désolant, c'est que la plupart sont en très mauvais état. Oui. Et donc, certaines, très peu, sont entretenues. Il y en a une à Soupetard qui a été restaurée par quelques architectes contemporains et qui est un peu en meilleur état. Mais celle de Croix-Dorade dont je vous parlais, en fait, on la laisse petit à petit à l'abandon. Et je crois que c'est un calcul pour récupérer les terrains. Et donc ça, c'est assez désolant.
D'accord. Alors, Geneviève Furnemont, je vous propose d'écouter. C'est un choix fait en raison de l'époque où ces musiques ont été entendues, de Django Reinhardt, Les yeux noirs, c'est un classique, évidemment.
Merci.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, nous reprenons notre entretien avec Geneviève Furnemont, auteur d'un ouvrage intitulé Toulouse Art Déco, les maîtres bâtisseurs toulousains aux éditions Terrefort. Un très bel ouvrage, très bien présenté, avec une alternance de dessins, de photographies et de textes, avec également des encarts parlant des architectes. Là aussi, c'est une source d'information et vraiment très, très intéressant. Tenez, tout d'un coup, en feuilletant, je vois le Docs Bar. Je ne savais pas qu'il y avait un Docs Bar.
Si, il y avait un Docs Bar près du cinéma sur les anciennes allées Roosevelt.
Ça veut dire qu'on pouvait rentrer avec son chien ?
Non, on ne pouvait pas rentrer avec son chien, mais vous aviez en fait, dans la maçonnerie d'un immeuble, vous aviez une écuelle pour les chiens, pour leur donner à boire. Et quand on sort des périodes caniculaires dans lesquelles nous sommes, on se rend compte que les animaux, eux aussi, avaient peut-être besoin de boire.
Oui. Ça n'existe plus, ça.
Non, ça n'existe plus. Sinon, on vous aurait mis une photo. C'était voilà. un chouette endroit. Oui.
Oui, alors, on parlait des immeubles. Et finalement, moi je suis étonnée, en ayant travaillé sur votre livre, de voir la quantité d'immeubles. Et effectivement, c'est toujours cette question qu'on se dit, mais pourquoi on ne regarde pas vraiment ? Alors, on passe, on est pressé. Bon, la maison, par exemple, Guignard, c'est vraiment... elle ne paie pas de mine quand on la voit, mais en regardant bien, c'est vrai qu'elle a une architecture intéressante.
Oui.
Bon, l'immeuble Jourdet également. Enfin, beaucoup. Et puis, il y a une rue qui est vraiment très intéressante, la rue dans laquelle il y a le cinéma ABC, que beaucoup de gens connaissent, Qu'est-ce que c'est ces maisons ?
Alors vous avez en fait dans cette rue Saint-Bernard qui va de Saint-Sernin jusqu'au boulevard, vous avez ce qu'on appelle un groupement. Donc à cette période-là, on commence à faire deux choses, des lotissements et des groupements. Alors les lotissements, c'est quand vous construisez des maisons ou des immeubles et que vous allez faire la voirie. Et des groupements, la voirie est déjà là, ce qui était déjà le cas au groupement Saint-Bernard. La rue Saint-Bernard était déjà faite. Donc on décide de mutualiser le travail de plusieurs architectes et on fait une série de maisons qui vont fonctionner ensemble. C'est-à-dire qu'elles vont être toutes différentes, mais elles vont s'aligner de la même manière. La clôture est alignée, la façade est alignée, la disposition est sensiblement la même.
Mais toutes mais différentes,
tout
c'est
cela,
ce qui fait
oui,
le charme.
Voilà,
hein,
tout cela est rythmé justement par l'astuce des fenêtres. Donc vous avez à peu près 25 types de fenêtres qui sont de formats et de formes différentes. Et du coup, ça vous donne un rythme à l'ensemble des maisons qui est extrêmement attachant.
Ah oui. Très bien restaurées, c'est vrai.
Elles viennent, alors... oui, d'être restaurées. Ils sont en train de terminer la dernière et le résultat est assez majestueux.
Ah, oui, absolument. Alors, évidemment, il y en a une que vous préférez entre toutes, c'est celle du docteur Chary.
Oui.
Alors, ben peut-être que vous pourriez nous lire ce que vous avez écrit.
Bon, très bien, avec plaisir. Alors, la maison du docteur Chary, elle a été construite en 1926. Hein, donc, elle fait partie des tout premiers immeubles Art déco. De même que l'immeuble qui est au bout de la rue, qui est l'immeuble Bonzon. On parlait de la date de 1925 tout à l'heure. Mais l'immeuble Bonzon, il a été fait en 1919. Hein, donc, c'est très, très tôt. C'est bien
tôt.
Avant l'exposition internationale de Paris. Et c'est un immeuble qui inaugure l'aventure de l'art déco.
Et alors, en fait, pour nos auditeurs, je peux dire que souvent, on voit évidemment les façades. Mais là, vous avez pu entrer.
Oui. Alors là, il se trouve que l'hôtel particulier du docteur Chary, les propriétaires actuels, sont extrêmement accueillants, extrêmement soucieux du patrimoine qu'ils ont décidé d'acheter. Et chaque fois qu'on leur a demandé s'ils pouvaient nous recevoir, ils ont accepté, ils nous ont donné l'autorisation de faire des photographies et ils nous ont montré toute la maison, c'est-à-dire qu'on a pu aller voir vraiment les chambres, les salles de bain. Ah oui, elle est magnifiquement conservée et ils essaient de... retrouver éventuellement par exemple du mobilier. Dernière fois que j'y suis allée, il y avait du mobilier supplémentaire qui n'est pas le mobilier véritablement de la villa mais qui est du mobilier art déco. Et quand ils font refaire, ils ont fait refaire par exemple l'éclairage qui domine l'escalier, un éclairage zénithal, ils l'ont fait refaire vraiment dans l'esprit art déco.
Oui, mais même l'éclairage de la pièce là, dont on voit la photo est magnifique.
Oui, c'est vraiment l'idée que nous avons évoquée ensemble tout à l'heure, de faire rentrer la lumière.
D'accord,
vous voulez que je lise un petit extrait ?
D'accord.
Alors, très bien. Donc, mitoyen du groupement, l'hôtel particulier du docteur Chary est signé par Robert Armand Dary. La façade offre une variété d'ouvertures, très rythmées, mêlant bow window, arc cintré, grande baie vitrée, fenêtre allongée en meurtrière. Balcon filant et jardinière en béton complètent ce décor astucieux, qui ne laisse en rien deviner la profondeur de la villa et son plan luxueux. Le programme est double, cabinet médical côté rue et maison côté jardin. Mais l'entrée est commune et devient un vestibule prestigieux, qui distribue salle d'attente à gauche, salle de soins à droite, elle-même dotée d'un cabinet de toilette, et mène au salon en face. Quelques marches et une porte coulissante à deux battants et ferronneries achèvent de théâtraliser l'entrée dans la pièce principale, majestueuse. Ce séjour, accessible à nouveau par un escalier, revient au même niveau que l'entrée et est éclairé de grandes baies vitrées sur la terrasse. Il possède une hauteur sous plafond de 4,80 m, très spectaculaire. Armoire d'angle encastrée, fontaine décorée de mosaïques, salon privé en alcôve, l'intelligence décorative est omniprésente. Sur la gauche, l'accès à la cuisine et un escalier en L, au-dessus du renfoncement, permet l'accès à l'étage, en mezzanine, qui distribue chambres et salles de bain. Une niche abrite un paysage peint d'Arthur Fage. Son éclairage zénithal est inspiré des vitraux de l'architecte américain Frank Lloyd Wright, et la distribution est digne des demeures des années folles.
Alors, effectivement, quand on voit, il y a une harmonie. Et c'est vrai que l'entrée est magnifique.
Oui.
Vraiment. Dans les coloris même de la peinture, il y a un ocre un peu jaune qui est très beau avec ce bois sombre. C'est magnifique. Bon, voilà. Alors, celle-là, vous avez cette préférence.
Oui,
hein.
oui, parce qu'elle est vraiment, elle est vraiment très, très bien agencée. Et puis, dans beaucoup de ces maisons, on a refait les choses pour la facilité du quotidien. Et dans l'hôtel particulier du docteur Charry, on ne vous a pas mis la photo, mais il reste encore la salle de bain Art déco, qui est extraordinaire et que le propriétaire va s'attacher dans quelques mois à restaurer. C'est oui. un endroit assez magnifique.
Oui, alors apparemment, est-ce que les propriétaires acceptent facilement que vous preniez leur maison en photo?
Alors ça, c'est très difficile. On peut les comprendre parce que nous vivons une époque où il y a quand même beaucoup d'intrusions, de vols. Alors, il faut convaincre les propriétaires d'abord de la validité de votre travail, de la validité de votre engagement, du respect de leur vie privée. Et après, il faut effectivement que ce propriétaire soit moins craintif par rapport à une intrusion éventuelle. Donc, il y a des fois des personnes qui refusent qu'on prenne des photos, qui veulent bien nous montrer et qui refusent qu'on prenne des photos. Il y en a d'autres qui refusent même que nous mettions un pied dans leur propriété. Et puis, de temps en temps, on a des gens qui nous ouvrent vraiment très généreusement leurs portes, parfois plusieurs fois d'affilée, et qui sont, et c'est le cas des propriétaires de l'hôtel particulier du docteur Charry, qui sont très concernés par la préservation de ce très beau patrimoine.
Oui. C'est un fait que...
Parce que c'est un engagement, hein. C'est un engagement moral, c'est un engagement financier. Parfois, ce sont des choses très, très lourdes. Et essayer de garder tout cela et de le magnifier, c'est un véritable engagement.
Oui, parce qu'il y a une harmonie. C'est ça.
L'harmonie, elle est très perceptible.
On a parlé que d'architecture, mais c'est vrai aussi que dans tous les domaines et dans les objets également.
Oui, les objets,
les
vases, mobilier.
Le mobilier, voilà. Et des choses qui... que j'aime bien. Moi, c'est une période que je trouve très intéressante. Et on peut parler quand même également des architectes. Alors, j'ai appris que le diplôme d'architecte... Alors, quelque chose au début du XXe siècle. Qu'est-ce qui se passait pour le diplôme d'architecte?
Au début du XXe siècle, le diplôme d'architecte, ça n'existe quasiment pas. C'est-à-dire que vous pouvez vous acheter une patente et vous pouvez improviser architecte. C'est un peu dangereux.
Il y a des maisons qui se sont écroulées.
Sûrement. Donc là, on fait un peu confiance à votre sens des responsabilités. Après, c'est vraiment une profession qui a fini par se poser un cadre légal dont nous avons bien besoin. Et puis, on a créé l'Ordre des architectes en 1940, si je me souviens bien.
En 1914, je lis le titre d'architecte DPLG est
diplômé
reconnu
par le gouvernement.
Décret.
Oui. Donc là, on commence à faire des formations. Et puis après, une fois qu'on a formé les architectes, on va créer l'Ordre des architectes qui va régir la profession.
Ah oui, le code des devoirs professionnels de l'architecte.
Oui,
voilà.
Oui. Parce que c'est quand même extrêmement dangereux. Donc il faut que tout soit bien balisé. Et puis c'est aussi la période où on commence, en France pas beaucoup, mais c'est la période où on commence à faire des immeubles de plus en plus grands, de plus en plus hauts, et qui imposent des contraintes architecturales.
Oui,
ça devient de plus en plus sérieux.
Oui, tout à fait. Oui. Alors, bon, j'en ai relevé quelques-uns de ces architectes, dont un, vous allez comprendre pourquoi déjà, Michel Munvez, alors je ne sais pas comment prononcer, c'était Mojzej Munvez, ukrainien. Alors, évidemment, c'est une référence, on pense évidemment à ce qui se passe en Ukraine maintenant, mais je dois dire aussi que ce qui m'a intéressé, c'est qu'il a été élève de l'école d'électrotechnique de Toulouse, qui est actuellement l'ENSET, que je connais particulièrement bien.
Oui.
Voilà, et vous savez que cette école était particulièrement occupée, essentiellement occupée, par des gens venant de Russie.
Oui. En fait, il y a beaucoup de ces architectes qui sont arrivés à Toulouse pour faire des études et qui ont apprécié la qualité de vie qu'ils avaient ici et qui n'ont pas souhaité rentrer. Alors, certains étaient aidés par leur famille, mais d'autres n'étaient pas aidés par leur famille. Et c'est une décision, on leur a coupé les vivres parce qu'ils ne voulaient pas rentrer.
Oui,
et ça a été des décisions parfois difficiles à prendre.
Oui.
Mais on a beaucoup d'architectes qui sont nés à Toulouse, mais on a aussi un certain brassage qui commence à se faire à ce moment-là.
Alors, il y en a un qui a une place importante dans votre ouvrage, c'est Jean Montoriol.
Oui.
Pourquoi ?
Parce que Jean Montoriol est l'architecte de la ville. C'est l'architecte que Étienne Billière a choisi comme architecte de la ville et il va le rester même après la mort d'Étienne Billière. Et il va véritablement devenir le fer de lance du programme d'Étienne Billière. Donc on avait déjà consacré tout un ouvrage à Jean Montoriol. Donc on a voulu reprendre ses actions les plus importantes. Donc c'est lui qui fait la bibliothèque, c'est lui qui fait les groupes scolaires, c'est lui qui va faire par exemple les petits kiosques que l'on va disséminer dans toute la ville.
Qui sont d'ailleurs actuellement... Réétabli, non
ils Alors, sont... il y en a 6 qui sont maintenant sur l'esplanade François Mitterrand, donc les allées Roosevelt. Et il y en a un qui a été remonté à Jolimont. Et on essaye de les redisséminer, mais pas nécessairement à leur endroit d'origine, mais de les conserver. Ce sont des petits kiosques qui permettaient aux personnes qui n'avaient pas les moyens de se payer un pas de porte sur les grandes artères commerciales de se faire connaître. Et ils le louaient pour une somme assez modeste. Et on pouvait, à ce moment-là, si on était fleuriste, caudronnier, couturier, couturière, essayer de commencer à se faire une clientèle pour lancer sa carrière professionnelle.
Alors, pour en revenir à Jean Montoriol, une notion de patrimoine auquel il est particulièrement sensible vient s'ajouter à sa foisonnante carrière à la fin des années 40. Une agence des bâtiments de France est créée à Toulouse en 1948. C'est lui qui en prend la direction. Il travaille désormais à la restauration des bâtiments historiques dans les départements de la Haute-Garonne et du Gers. Et en 49, il quitte son poste d'architecte chef de la ville. Celui qui a changé le visage de Toulouse meurt en 1966.
Oui, donc il a fait, en fait, c'est une seconde partie. Avec son second mariage, il se rapproche de la famille, sa deuxième épouse, et il va partir vivre dans le Gers. Et à ce moment-là, dans les années 50, l'art déco n'est plus à la mode, et il va s'engager dans la conservation du patrimoine, la conservation de manoirs, de châteaux, dans le Gers et en Haute-Garonne.
De manoirs et de châteaux, il y en a quand même un certain
nombre. Un certain nombre, oui.
Alors, vous parlez des charpentiers toulousains. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces charpentiers ?
Alors, les charpentiers toulousains, c'est une organisation qui dépasse largement le cadre des charpentiers, qui est une organisation qui va permettre d'avoir à disposition sur un chantier tous les corps de métier dont on a besoin. Et les charpentiers toulousains vont donner naissance pendant l'entre-deux-guerres à la Société des travaux du Grand Sud-Ouest, qui avait son siège sur les boulevards, avec un très, très beau, un très bel immeuble aussi, qui était le siège également de la caisse de retraite de la Société des grands travaux du Sud-Ouest. Parce que c'est aussi une période, ça correspond à l'histoire de France, où on va faire les congés payés, où on va commencer à collecter des caisses de retraite et essayer vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, d'améliorer le sort des gens.
Et alors justement, j'en suis à cette page où on voit la caisse des retraites de la Société des grands travaux du Sud-Ouest. Donc il y a un immeuble, il y a un immeuble boulevard de Strasbourg. Et effectivement, ce que vous dites, c'est qu'il y a à la fois des lignes horizontales et des lignes verticales.
Oui, ça c'est le principe de l'art nouveau. Et ce qu'il y a de très beau hein, dans cet immeuble des grands travaux du Sud-Ouest, qui est à l'angle de la rue Merelli et des boulevards, ce sont les balcons. Qui sont des balcons filants en béton et qui donnent une ligne qui paraît ininterrompue, filante, et qui englobe tout le bâtiment.
Oui, c'est vrai qu'il y a une harmonie. Les vitraux également. Alors, j'imagine que les vitraux, peut-être dans les cages d'escalier, mais on les voit surtout dans les villas, non dans les maisons.
Alors, on a retrouvé beaucoup plus de vitraux de la période Art Nouveau. Dans la période Art Déco, on en a retrouvé très peu. Et là aussi, on s'est heurté très souvent à des destructions sauvages. Pendant que nous avons travaillé au livre, on faisait des travaux dans des maisons perpendiculaires à l'avenue Camille Pujol. Et j'avais été voir les gens sur le chantier, ils m'avaient dit qu'ils allaient détruire les vitraux. Et je leur ai proposé de venir les récupérer. Et ils m'ont dit oui, on vous appellera quand on les enlève.
Ils vous ont
et
pas
j'ai rappelé plusieurs fois, oui, on vous appellera quand on les enlève. Et un jour, je me suis aperçue qu'ils les avaient enlevés et ils ne m'ont jamais appelé. Et donc, on avait dans cette maison des vitraux art déco, dans des teintes de gris et de jaune, comme ceux des communs de l'ancien hôtel particulier Bailey, oui, rue Bosque. Oui. Et ils sont passés à la poubelle, hein, ce que je trouve assez tragique. C'est aussi pour rebondir sur votre idée de ces immeubles classés ou non. Eh bien, on est en vie encore dans une période, au début des années 2020, où vous avez des gens qui saccagent un patrimoine qui est vieux de 100 ans, uniquement par confort, parce qu'il suffisait de me donner un petit coup de fil. C'était pas très compliqué.
Et là, dans ces vitraux, on voit justement ce que vous disiez, le côté vague.
Oui. On voit en fait à la fois la géométrie et la douceur de la vague du style streamline.
Oui. Alors, évidemment, il y a les mosaïques qui sont très belles, souvent dans les tons de jaune, mais peut-être que c'est le hasard qui fait que... Et puis, je voulais parler des mosaïques aussi, qui sont magnifiques souvent.
Oui. Alors, on reste quand même dans les mêmes tons. Je pense que l'idée dans les vitraux du jaune, c'est une idée solaire. Oui. Il y a un autre bâtiment très emblématique en France, c'est le musée de la piscine à Roubaix, où vous avez en fait les grands vitraux de la piscine qui représentent le soleil couchant. Et dans la mosaïque, on va rester dans une gamme qui est une gamme autour des ocres et des bleus.
D'accord, oui. Alors, je vois que... Alors, des peintures, évidemment, bon, il y en a peut-être pas beaucoup dans les maisons, je ne sais pas. Vous parlez de l'amphithéâtre de la faculté de lettres.
Oui, dans l'amphithéâtre de la faculté de lettres, en fait, on va rappeler l'importance des formations médicales. Et il y a effectivement des peintures qu'on a redécouvertes il y a quelques années.
C'était pourtant la faculté de lettres ?
Oui, mais c'est une manière de montrer l'importance de la formation médicale.
Oui.
Et puis, il y a aussi des peintures à l'intérieur de la bibliothèque municipale de Marc Saint-Saëns, dans la grande salle de lecture.
Ouais,
donc, il y a un programme. Ça reste aussi un style où vous avez un programme un peu pédagogique.
Alors, nous allons voir aussi, parce qu'il y a également, on va regarder les ferronneries, on va en parler. On va parler des sculptures, parce qu'il y a aussi des sculptures. Bon, il faut toujours regarder attentivement. Voilà, c'est ce qu'on dira aux Toulousains quand ils sont dans la rue, qu'ils lèvent le nez en faisant attention quand même à leur sécurité. En attendant, je vous propose, Geneviève Furnemont, d'écouter chanté par Billie Holiday, Strange Fruit.
C'est un très bon
voilà,
choix.
C'est une époque, ça, elle chante au moment où la ségrégation, le racisme anti-noir bat son plein. Et donc, cela correspond aussi à l'époque où le Ku Klux Klan œuvrait, malheureusement.
Oui.
Trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, sun to rot, for the tree to drop. Here is a strange and bitter
parole d'auteur. Monique Fauché.
Vous êtes toujours en compagnie de Geneviève Furnemont et nous en compagnie également de l'Art Déco à Toulouse, et toujours avec cette incitation à lever le nez, à observer ce qui est pourtant près de chez nous, dans plusieurs quartiers de Toulouse, dans le centre-ville évidemment un peu éparpillé en règle générale. Et alors, on parlait de ce qui, en dehors de l'architecture, faisait également le propre de l'art, de l'art contemporain, à savoir, on parlait de...
Oui, des vitraux, des mosaïques.
Des vitraux, des mosaïques. J'avais parlé, moi, des beaux windows. J'ai un faible pour les beaux windows. Ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup de terrasses et parfois en décalé. Parfois, c'est un peu compliqué, d'ailleurs.
Oui, mais c'est l'idée, en fait, de donner... Comme c'est un style qui est assez symétrique, ils vont se servir de la forme et de la place des ouvertures pour que ce ne soit pas trop symétrique et trop fade.
Et donc lumineux.
C'est le rythme des fenêtres qui va donner le charme à la façade, la forme des fenêtres, les différences et leur rythme.
Et quand tout à l'heure vous parliez du style bateau, mais dans le fond, quand on regarde certaines villas, elles font très balnéaire, hein, effectivement.
Oui. C'est un style qui est complètement associé à des changements de vie où on va avoir la possibilité de ne pas rester toute l'année au même endroit et où on va s'ouvrir sur des moyens de communication. Les gens commencent aussi à avoir un peu plus de voitures, il y a un peu plus de trains, ça se démocratise.
Alors, les ferronneries sont magnifiques. On en voit à la page 60, enfin, il y a à plusieurs pages d'ailleurs, 72, page 74, il y a un porche magnifique, un portail très très beau et très bien peint d'ailleurs, avec de belles couleurs. Il y a des sculptures également. Alors là, où est-ce qu'on peut les voir?
Alors, vous avez la frise de la bibliothèque municipale. 60 mètres linéaires réalisés par Sylvestre Clerc. Et la frise, elle parle de l'histoire de l'humanité et de l'engagement de l'humanité dans la connaissance. Donc, il y a des scientifiques, des écrivains. Et après, vous avez les petites sculptures qui sont devant la bibliothèque municipale, qui ressemblent un peu à des mayoles.
Oui, des femmes opulentes.
C'est la période...
Après la famine, quasiment. Après la misère de la guerre. Voilà, alors on a vu un petit peu, on n'a pas tout vu, évidemment. C'est vrai qu'après le style nouille de l'Art Nouveau, vous n'aimerez pas que je dise le style nouille de l'Art Nouveau.
Non, je n'aime pas qu'on dise ça. Vous le savez bien, oui.
Voilà, on a des lignes beaucoup plus épurées, beaucoup plus géométriques, je dirais. Évidemment, c'est les des années folles, mais ça avec beaucoup, beaucoup de charme. Alors, on va quand même donner à nos auditeurs une information importante. Il s'agit de ce qui va se passer aux portes de Toulouse, tout près, vraiment, à Fonsegrive. Alors, oui. Geneviève Furnemont, qu'est-ce qui va se passer à Fonsegrive?
Alors, dans le livre, l'ouvrage se termine, on a voulu sortir un tout petit peu de Toulouse, avec l'éditeur Daniel Pavlovski, que je salue. Et on a décidé d'y inclure la mairie de Cannes-Fonsegrive, qui est une mairie, au départ c'est une mairie école, donc on reste dans la même volonté. Et le maire à l'heure actuelle, avec son équipe culturelle, a souhaité rendre hommage à la mairie. Et le 22 septembre, ils m'ont invité à venir sur la place devant la mairie faire une conférence nocturne en extérieur pour parler de l'art déco. Et cette conférence sera ponctuée de pauses et de pauses jazzy, comme ce qu'on vient de faire dans l'émission.
Évidemment.
Où il y aura un jazz band qui va jouer des musiques qui sont contemporaines, en fait, de cette belle période. Donc, en mois de septembre, on a encore une jolie lumière. On sera juste après les journées du patrimoine et on va pouvoir un petit peu parler de l'art déco sous les étoiles.
sans
et
la canicule.
En musique.
Voilà.
Et en musique.
Alors, c'est le rendez-vous.
C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Et hein, ils seront très contents de recevoir vos auditeurs.
Voilà, 22 septembre à 20h30.
22 septembre.
Geneviève Furnemont, un grand merci. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de Toulouse Art Déco. C'est la période 1920-1940. Les maîtres bâtisseurs toulousains. Aux éditions Terrefort, un très bel ouvrage. Merci.
Merci Monique Fauché, merci.